Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote. France Inter.
Les flexitariens. Ah, moi, je mange de la viande, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Et encore, j'en ai pas autant que ça des potes végétariens. Je connais plus de carnivores que d'herbivores.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un numéro de notre émission qui devrait faire date. Il y aura en tout cas un avant et un après pour William, le patron du bistrot Blériot. Après le schisme de 1054 entre l'église catholique et l'église orthodoxe, l'histoire retiendra peut-être 2024. Le schisme entre Cyril Lacarrière et William du Blériot, qui lui a dit très clairement hier midi, alors qu'on lui expliquait qu'on préparait une émission sur les flexitariens, « Si tu fais ça, Cyril, tu seras plus le bienvenu ici. En tout cas, tu pourras dire adieu au mini-croc à la truffe en amuse-bouche. « Ok, on annule l'émission !» avait hurlé Cyril, qui a beau être un journaliste consciencieux, plaçant sa mission d'informer au-dessus de tout, ne pouvait pas supporter l'idée qu'il faudrait désormais payer pour les mini-crocs à la truffe qui jusqu'à présent nous étaient offerts. Si gentiment. Seulement voilà, l'abdication de Cyril ne plaisait pas à tout le monde dans l'équipe et plusieurs personnes courageuses, étonnamment trois femmes, Sybille Bulou, Fanny Léonore Crouzet et Manon Mariani, ont osé l'impensable, se dresser contre la décision de Cyril. Non, il n'était pas question d'annuler les émissions à cause des mini-crocs. L'estomac de Cyril ne pouvait présider à des décisions éditoriales si importantes. Nous étions une émission de service public ayant vocation à éclairer nos concitoyens. Nous devions donc de maintenir notre émission sur le flexitarisme car aujourd'hui manger moins de viande est un enjeu de santé publique mais aussi un devoir écologique. À manger moins de viande, William était devenu livide au mot écologique, il était tombé dans les pommes. Ce n'est qu'en lui expliquant très patiemment, en l'éventant avec un gros jambonneau, que le flexitarisme ne signifiait pas renoncer à la viande, mais juste en manger moins et de meilleure qualité, que William a daigné recouvrer ses esprits. Alors, c'est quoi être flexitarien? Est-ce vraiment le régime idéal pour vous et pour la planète? Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Et bonjour Philippe Cardon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Philippe, vous êtes sociologue de l'alimentation et maître de conférences à l'Université de Lille. Vous faites partie du collectif Solal de recherche en sociologie de la consommation alimentaire. Vous êtes le co-auteur avec Marie Pless et Thomas Depecker de Sociologie de l'alimentation qui a été publié en 2019 aux éditions Armand Collin. Alors Philippe, vous allez nous expliquer à partir de quel moment on peut se proclamer comme ça flexitarien. Juste le temps de vous présenter mes petits camarades, à commencer par l'inventrice d'un régime beaucoup plus radical que le régime flexitarien, le régime flexit à 20. Jamais de rouge avant 7h du matin, que du blanc passé 18h. Et regardez, il est en pleine forme. Quelques petits dossiers d'ivresse sur la voie publique, mais en pleine forme. Bonjour Manon Mariani.
Bonjour. J'ai arrêté le blanc, sachez-le. Voilà. Donc on peut arrêter les blagues sur le vin blanc.
Fake news.
Non, c'est pas une fake news. Non, ça la rend.
Ça fait deux semaines, mais.
Ah, d'accord, très bien.
Ça la rend.
Ça ne marche pas.
Manon, ça va, Quentin.
Avec cette histoire d'émission sur le flexitarisme ou pas, vous avez pris le risque de vous dresser non seulement contre votre rédacteur en chef Cyril, mais aussi contre votre rédacteur en chef adjoint William. Et je tenais à saluer ce geste qui ne manquait pas de panache. Ouais. Panache qu'on va retrouver évidemment dans votre veille sanitaire.
Évidemment, et aujourd'hui je vous parle d'une expression que l'on voit de plus en plus apparaître sur les réseaux, l'homme capable. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça a une connotation positive sur le papier, mais spoiler, ça ne l'est pas vraiment. Je vous explique sa signification dans ma veille sanitaire.
Lui, Philippe, on ne sait pas s'il bouffe de tout, on sait juste qu'il bouffe à tous les râteliers. Rusé,
ça va pas.
Rusé comme le renard, perfide comme la hyène, compact comme le chacal. Quentin appréhende le mercato média qui se profile avec sa stratégie de toujours ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est pourquoi le week-end prochain, tout en textotant Nagui, il commentera le Grand Prix de France Moto en direct du Mans. Bonjour Quentin, lui.
Bien, merci. Bonjour, bonjour à tous.
Belle description.
Facturé, il ne pense qu'à ça. Heureusement, vous gardez quand même un peu de temps pour votre mission principale, celle que nos impôts payent, votre complètement à la rue.
Oui,
vous avez croisé beaucoup de flexitariens?
Oui, moyen. Des viandards, des végétariens, des véganes, des entre-deux. Alors peut-être des flexitariens qui s'ignore. Est-ce un choix militant d'ailleurs, être flexitarien? C'est ce qu'on va poser comme question dans la rue. Je suis venu vous voir dans une rue commerçante de Paris, pas n'importe laquelle, vous verrez. Petite surprise à la clé.
Teaser. Vers 16h30, nous poserons l'autre question. Comment quelqu'un qui avait la corpulence de Notorious Big au dîner de Noël 2022 peut-il aujourd'hui, en 2024, être fin comme un roseau? Derrière le mystère, Quentin, lui, il y a forcément un régime, mais lequel? Il y en existe tellement des régimes. La réponse nous attend dans le Zoom Zoom Test. En fin d'émission, Yann Marguet sera des nôtres. Mais Philippe Cardon, avant qu'on décrypte ce que c'est que d'être flexitarien, combien de fois par semaine il faut manger de la viande idéalement ? Est-ce que, déjà, on le sait, ça, on dit qu'il faut manger moins de viande, mais est-ce qu'on sait combien de fois il faut manger ?
Vaste question. Moi, je suis sociologue, je ne suis pas diététicien ni nutritionniste.
Vous avez une petite idée ?
Je dirais qu'en fait, il y a un vrai débat scientifique. C'est une vraie controverse. Ce que recommande, par exemple, le PNNS, c'est manger 3-4 fois de la viande par semaine. Et ensuite, tout dépend de quelle viande on parle. Est-ce qu'on parle de la viande rouge ou de la viande blanche ? Et puis après, il y a un autre facteur qui est fondamental, c'est l'âge.
Ah.
Et c'est là qu'il y a des débats. Il y a des choses qui sont dites. On considère qu'à jusqu'à partir de 7 ans jusqu'à 11 ans, à peu près, il faut manger environ plusieurs fois par semaine de la viande.
Et puis après c'est moins intéressant.
Et après, il y a un autre âge de la vie qui est important, c'est en fait chez les personnes âgées. Et là, il y a des débats autour notamment des problèmes comme la sarcopénie, est-ce qu'il faut continuer à manger ou pas la viande pour garder la force musculaire. Donc, en fait, voilà, c'est difficile de répondre en soi parce que tout dépend des âges de la vie, ça dépend aussi des physiologies et physionomies des uns et des autres.
Et juste pour être précis, c'est quoi le PNNS ?
Programme National Nutrition Santé, porté par le gouvernement depuis 2001.
Eh ben,
on
se couchera moins bête une fois de plus. Face à vous, Philippe, un homme exténué en cette fin de semaine. Gérer sa fanbase lui prend de plus en plus de temps. Toutes ces demandes qu'il faut traiter, trier en fonction de l'âge et du physique de Lala Carzouze, évidemment. Hier, il a été marqué par un très beau message, celui de Christelle Cloteau, qui lui écrit, je cite, « Je titille, mais j'adore vos DCS, je ne retiens jamais rien. » Emoji mort de rire. Vous inquiétez pas, lui non plus. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes, bonjour Christelle.
Alors, oui, elle est là.
Bisous, Christelle.
Au moins, elle est là. Alors Cyril, racontez-nous le flexitarisme, d'où ça sort ?
Me faire ça à moi.
What do you want me to go back to my places and what you want? This is not a method. This is a provocation.
Voilà, si ça continue, je repars à Las Vegas, Mathieu Noël. Attention. Alors, le régime flexitarien, oui, je mets des guillemets et je les assume. C'est à une soi-disant diététicienne américaine qu'on doit ça. Alors moi, j'attends de voir ses diplômes. Cette dame s'appelle Dawn Jackson Blattner. En 2009, elle publie un best-seller, Le régime flexitarien, la façon la plus végétarienne de perdre du poids, d'être en meilleure santé, de prévenir les maladies et d'ajouter des années à votre vie. Titre à rallonge pour dire préparez-vous à une vie longue comme un jour sans pain. Évidemment, pas pour cette Madame Blattner. Pour elle, ce régime est une manière d'aider les gens à profiter des avantages de l'alimentation végétarienne tout en continuant à consommer avec modération des produits d'origine animale. Et c'est là qu'il reste un espace pour s'entendre. Si par modération, elle dit qu'on ne doit pas manger de viande au petit-déj, alors je suis prêt à cette concession. Au-delà, c'est niette, il y aura forcément des carences.
Mais ça, c'est pour le régime flexitarien. Mais le mot lui-même, il sort d'où ?
Eh bien, d'un journaliste. Là, je demande à voir sa carte de presse.
Oh.
Marc Bittman, chroniqueur culinaire et donc journaliste, c'est lui qui, dans les années 90, popularise l'idée d'être flexitarien. Lui aussi n'est pas très clair sur la question de la quantité, mais il donne une piste dans un livre publié en 2013, VB6, manger vegan avant 6h du matin. On mange vegan avant 6h et ensuite c'est free barbecue pour tout le monde. Comme moi je me lève après 6h,
oui,
ce régime est fait pour moi. Alors, qu'est-ce que c'est exactement, finalement, d'être flexitarien ? Pourquoi faut-il sérieusement penser à le devenir ? Oui, William, désolé, je sais que c'est dur à entendre. Qu'est-ce que ça change à notre corps de manger moins de viande ? Pourquoi est-ce que c'est bon pour la planète ? Est-ce que c'est bon le porc iranien ? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
C'est pas à charge, c'est bien.
Mais c'est bien. Puis c'était tout en nuance.
Tout en objectivité, ouais.
Merci beaucoup, Cyril. Philippe Cardon, on vient d'entendre qu'être flexitarien, c'est pas comme être végétarien, c'est beaucoup plus flou. D'ailleurs, je crois que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. On va en parler tout de suite. Si je vous demande, c'est quoi être un bon flexitarien ? Est-ce qu'il y a une réponse ?
Non.
Non.
Bah non. Déjà, la première chose, il faut comprendre que c'est un terme, c'est un mot. Donc, c'est une catégorie. C'est une catégorie qui est à la fois médicale, entre guillemets, qui a été inventée, comme on l'a vu. Et puis, c'est aussi un mot comme catégorie qui vise à dessiner une population dont les frontières sont floues, en réalité. Donc, ce qu'on connaît, c'est deux grandes catégories. Il y a les carnivores, d'un côté, et puis il y a les végétariens, voire même les véganes. Les végétariens, en fait, c'est une population qui reste relativement faible. On estime à peu près à 7 ou 8% le nombre de végétariens en France.
C'est pas en augmentation, ça.
Ça stagne, et surtout avec la crise du Covid, on sait qu'aujourd'hui, ça stagne. Et puis, il y a cet entre-deux que vous avez évoqué, des flexitariens qui sont à la fois des petits carnivores et qui mangent plutôt beaucoup de fruits et légumes. Et en fait, l'enjeu, c'est la question de la quantité. Alors, ce qui est intéressant d'un point de vue sociologique, c'est que Qui dit qu'il est flexitarien? En réalité, très peu de personnes, mis à part les grandes enquêtes dans lesquelles on demande aux gens « est-ce que vous êtes flexitarien ?» Et il y a une grande enquête qui a été faite en 2021 sur les données de 2020 par l'IFOP, qui avait montré qu'il y avait à peu près 25% de personnes de la population française, donc représentative, qui se déclarent flexitariens. Et quand on réfléchit deux secondes à cette question, on se dit, mais pourquoi les gens se désignent flexitariens? Alors, soit parce qu'ils le revendiquent comme tel, et au moment de la réponse, ils vont dire, oui, je suis flexitarien. Et puis, il y a ceux qui, au moment où on leur pose la question, ils se disent, mais peut-être que finalement, je suis flexitarien. Donc, en fait, c'est toute la difficulté, notamment des enquêtes du type quantitatif, c'est qu'on a sur quel registre du langage, sur quelle terminologie, en fait, les gens, ils vont se reconnaître. Et donc, flexitarien, ça reste relativement souple. Ensuite, sur la question de la quantité de viande, là aussi, c'est tout à chacun qui...
Oui, puis vous l'avez dit, un truc très important, j'aimerais qu'on y revienne plus tard dans l'émission, c'est sur la question de l'âge. On n'y pense pas souvent, mais un bon régime, c'est aussi en fonction de son âge. Ça n'a rien à voir quand on a 14 ans ou 74. Et vous, êtes-vous plutôt bec salé ou bec sucré? Moi, je suis plutôt bec tout court. Oui, vous pouvez la noter dans vos calepins, c'est une des meilleures transitions, toutes saisons confondues. On écoute Sex Laws sur France Inter.
Zoom Zoom Zen sur France Inter.
Vous aussi, vous voulez perdre trois tailles de pantalon comme Quentin lui, et si vous deveniez flexitarien? Zoom sur ce régime alimentaire dont on parle beaucoup. Avec vous, Philippe Cardon, vous êtes sociologue de l'alimentation. Alors justement, le flexitarisme, en quoi c'est un terme qui vous est utile à vous les sociologues?
C'est un terme qui est utile parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une catégorie qui renvoie à un certain nombre de pratiques alimentaires et donc à un certain type de ce qu'on appelle, nous, des répertoires alimentaires, c'est-à-dire le type d'aliments qu'on va consommer. Et donc ça nous dit quelque chose, au fond, de la façon dont, individuellement, on pense son alimentation. Mmh. Et comme en sociologie, on sait que l'alimentation est fortement liée à la position qu'on occupe dans l'espace social, c'est-à-dire qu'il y a un lien... Et celui-là, il ne bouge pas entre le type d'alimentation, style alimentaire, répertoire alimentaire et milieu social. Ça, c'est le premier élément. Et puis, le deuxième élément, c'est que ce que l'on mange en fonction des milieux sociaux, ça évolue en fait au fil du temps. Et que les modèles normatifs évoluent aussi au fil du temps. Et que ce qui va caractériser des pratiques sociales à un moment donné, elles vont changer. Et le flexitarisme... Il participe de ces évolutions et il est un excellent indicateur pour comprendre notamment la place qu'occupe la viande dans l'idéal collectif, dans le modèle normatif alimentaire aujourd'hui. Et donc nous, on peut le prendre comme ça. C'est-à-dire que c'est un indicateur de la manière dont on collectivement, socialement, quel rapport on entretient aujourd'hui avec la question de la viande, qu'elle soit rouge ou blanche d'ailleurs, et sur tous les enjeux à la voie sanitaire et environnementaux.
Et en gros, le flexitarien, si on devait faire un portrait bobo, c'est quand même un portrait bobo, voilà.
Et ben
voilà,
oh, l'ai dit,
le lapsus est là, un portrait bobo. Si on devait faire un portrait bobo, ça serait un bobo, le flexitarien. Moi, urbain.
Je ne vais pas utiliser le terme de bobo, mais c'est vrai que ce que montrait l'enquête de l'IFOP, qui a été montrée par d'autres enquêtes, Canty et Cali, c'est qu'on est sur un profil plutôt de femmes qui sont diplômées, plutôt cadres sup, en moyenne 35 ans, et donc plutôt en 35 et en dessous, et qui sont urbaines, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc c'est plutôt un profil assez caractéristique, et souvent ce sont des femmes qui sont seules, qui ne sont pas en famille ou mariées. Voilà.
Donc, urbaine, parce que c'est plus simple d'être flexitarien en ville.
C'est plus simple d'être flexitarien en ville. Non, c'est plus simple d'être flexitarien en ville parce que la ville draine un certain nombre de représentations sociales autour de l'alimentation et qui sont ensuite... et puis surtout, c'est parce qu'on trouve essentiellement les cadres sup dans les villes et puis les bords de ville.
Puis pareil à la campagne, on mange un peu plus de viande, les repas autour de la grande table, etc. J'ai l'impression qu'on mange plus de viande à la campagne qu'en ville.
Non, ça marche pas. C'est pas aussi marqué que ça. C'est que l'indicateur clé, la variable clé, c'est quand même le milieu social. C'est-à-dire que plus on descend dans l'échelle sociale, plus on est consommateur de viande, et en particulier de viande rouge. Plus on monte dans l'échelle sociale, moins on en consomme.
Mais comment on explique ça? C'est très cher, la viande.
Ça s'explique. Effectivement, c'est cher, mais en même temps, c'est parce que c'est lié à des cultures plutôt populaire, tradition plutôt populaire dans laquelle la viande elle a toujours occupé une place importante, en particulier en milieu rural, de tradition plutôt agricole. Mmh. Et on sait aussi que le milieu agricole, en fait, il ne se réduit pas à des agriculteurs, il est extensible aux ouvriers, qui étaient des ouvriers ruraux, dans lesquels l'alimentation était faite à la fois de viande, mais aussi de fruits et légumes à travers les jardins.
Et si on devient tous flexitariens demain, ça peut avoir un impact énorme sur les campagnes, sur l'agriculture, notamment sur l'élevage intensif. Ça pourrait le diminuer, du coup.
Je ne ferai pas une corrélation directe, parce que je n'ai pas les outils pour le faire, mais je pense plutôt que, d'une manière plus générale, c'est un impact sur l'environnement qui est en jeu à travers la consommation de la viande. Donc plus on diminue, il y a beaucoup d'études qui le montrent, plus on diminue la quantité de viande consommée, plus, peut-être ça d'ailleurs votre question, mais plus on diminue la quantité de viande, plus l'impact environnemental est positif.
Et on parle de la viande, mais quel est le rapport des flexitariens au poisson?
Quand dans les études qui ont été faites, je pense notamment à l'IFOP, la consommation de poisson et la consommation de viande sont à peu près équivalents. Donc c'est une compensation. Donc en fait, ça renvoie un petit peu à ce que nous on appelle en sociologie à des styles de vie, c'est-à-dire des façons de se représenter le monde dans lesquelles la question alimentaire occupe une place centrale. Je peux aller plus loin, c'est-à-dire que dans le profil type que je vous ai évoqué, ce que montrait l'enquête IFOP, et qui est aussi confirmé par les travaux plus qualitatifs, c'est qu'en fait, il y a deux façons d'être flexitarien. On le fait soit pour des raisons plus collectives, c'est-à-dire qui répondent à des enjeux liés à l'environnement, soit on le fait pour des raisons beaucoup plus individuelles et qui sont liées à des enjeux personnels liés à la santé. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, En général, les profils de ces gens-là, du point de vue alimentaire, ça s'encastre dans d'autres types, du point de vue du style de vie, d'activité. C'est des gens qui vont faire du sport, qui vont faire la natation, c'est des gens qui ont peut-être fait, je sais pas, des femmes qui font du yoga. C'est-à-dire pour lesquels la santé, elle occupe une place importante. Et donc, la gestion du corps, l'entretien de soi, occupe une place importante. Et du coup, la question alimentaire occupe une place importante.
Si on devait, honnêtement, les amis, résumer en musique la transformation physique de Quentin, lui, sur l'année écoulée, entre la date charnière du 14 décembre 2022, tragiquement immortalisée par la photo dite du pull blanc,
déformé,
et son retour de Rome l'autre jour, affûté comme Ryan Gosling en fin de préparation pour le rôle de Ken, ça donnerait... Le mec était sur une dynamique Carlos, un an plus tard c'est Prince, voire Iggy Pop. Quentin, avouez, vous avez fait un régime.
Mais vous me trouvez...
Je trouve particulièrement affûté.
Fit.
Ah, très fit.
Ah, merci, ça me fait plaisir.
Oui, vous entretenez. Alors Quentin, vous avez arpenté les rues à la rencontre des gens, beaucoup de flexitariens.
Oui, alors je choisis une petite rue commerçante. Hein. Cédric gare son vélo sur le trottoir quand je lui fais lire...
Les flexitariens. Déjà, il faudrait que je sache ce que ça veut dire exactement. Qui limite sa consommation de viande sans être exclusivement végétarien. Ok. Bon voilà, maintenant je connais la définition d'un nouveau mot.
Ah ouais, c'est le but de l'émission.
Bah c'est cool.
T'es flexitarien toi ?
Ah moi je mange de la viande, après chacun fait ce qu'il veut. Hein. J'ai des potes végétariens, et encore j'en ai pas autant que ça des potes végétariens. Hein. Je connais plus de carnivores que d'herbivores.
Les herbivores. Alors si j'en cherchais justement, parce qu'on parle quand même des végétariens.
Mais vous êtes resté pote avec Joey Starr ou comment ça s'est passé ?
C'est vrai qu'il a un peu la faute de Joey Starr. Non, il est reparti sur son vélo. Elle retire un peu de liquide au distributeur. Je tombe sur cette femme, long impair et casquette à la marque au crocodile. Bonjour.
Bonjour.
C'est quoi votre prénom à vous ?
Europe.
Europe ?
Oui.
C'est la première fois que je rencontre une Europe.
Oui.
Pourquoi on vous a appelé Europe ?
Parce que mes parents étaient optimistes. Et je suis d'origine grecque, c'est un prénom grec.
Je lui demande de lire le mot du jour de Zoom Zoom Zen.
Les flexitariens.
Vous en faites partie ?
Non, moi je suis végétarienne. Par conviction politique, bien-être animal, développement durable, écologie, voilà. Moi j'ai vu le film Okja quand il est sorti. C'est un film qui dénonce justement l'industrialisation de l'agriculture. Ça a fait un électrochoc pour moi et j'ai décidé d'arrêter de manger de la viande. Pour être honnête, moi j'ai une fille et je lui interdis pas d'en consommer, mais par contre j'essaierai de faire en sorte qu'elle comprenne quels sont les enjeux de cette consommation de viande.
Je lui demande si autour d'elle les gens mangent de la viande ou si au contraire son choix se répand.
Ben, mes amis sont pour la majorité végétarienne aussi. Ma boss est végétarienne. Et puis aujourd'hui, je le vois, ça a vraiment évolué. Quand on organise des événements d'entreprise, on propose toujours un menu végétarien. Enfin voilà, c'est plus qu'accepté, c'est banalisé quoi. Et tant mieux.
Est-ce qu'il y a un plat qui vous manque ?
Oui, de mes origines grecques, on mange de l'agneau à Pâques et ça, c'est quelque chose qui me manque.
Elle me donne une recette pour remplacer de la viande par des brocolis. Je quitte Europe, une sorte de Luxit. Je traverse le boulevard, sur le passage piéton, je fais la connaissance de Tiffany. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ?
Moi, je suis étudiante en troisième année de philosophie.
Ouais.
Les flexitariens. Moi, j'ai commencé, j'étais végétarienne pendant un moment, puis j'ai recommencé à manger de la viande.
Pourquoi ?
Par manque de fer, en fait, par manque d'apport. Mais la viande, ça coûte cher, donc ma consommation se limite aussi avec ça.
T'as réduit à combien, du coup, aujourd'hui ?
Ah bah aujourd'hui, je mange de la viande que quand on m'invite.
Eh oui, être flexitarien ou flexitarienne en 2024, c'est aussi un choix économique et c'est important de le rappeler. Ma dernière rencontre se fait rue du Château d'Eau, au numéro 43, précisément. Derrière une devanture colorée exhibant volailles, paupiettes ou autres pâtés en croûte, bonjour.
Bien le bonjour, ici c'est Monsieur Denis Chenet, je suis le boucher de Monsieur Lacarrière. Je suis installé ici rue du Château d'Eau depuis 42 ans maintenant, voilà.
Et un petit monsieur avec les joues rouges, je lui parle de notre rédacteur en chef qui m'avait chaudement recommandé l'adresse. Ça sent bon autour de nous.
Ah ben, ça sent toute la chair fraîche, oui, bien sûr. La charcuterie qui dégage une bonne odeur, voilà.
Qu'est-ce qu'il prend, Cyril Lacarrière ?
Oh ben non, il n'y a pas de secret. Qu'est-ce qu'il prend, monsieur Philippe Lacarrière ? Il prend un peu tout plein de bonnes choses. Hein, et... Voilà, il n'a pas de goût particulier. Il aime tout ce qui est bon, donc... Il aime les femmes aussi.
Alors ça, Denis, vraiment, ça n'a rien à voir avec le sujet sur lequel je viens vous voir.
Oh là là.
Il a le sourire, notre boucher, mais il l'a un peu moins quand je lui fais lire notre mot du jour.
Ah, les flexitariens ? Oui, bah, de toute façon, de la viande, il en est mangé beaucoup moins. Hein. Tout le monde limite sa consommation de viande. Hein. Il en est... Mais il recherche du bon. Il recherche du bon, mais...
Vous en parlez avec vos clients, Denis ?
Ah ben, bien sûr, les clients, ils le savent. De toute façon, ils savent qu'ici, ils vont trouver du bon, donc il n'y a pas de problème. Donc.
Vous mangez pas exclusivement de la viande ?
Bah, je mange beaucoup de viande en tant que boucher quand même. Enfin, beaucoup, j'en mange moins qu'à une époque, mais... Moi, il me faut ma viande tous les midis, pratiquement.
Ouais, donc flexi-moyen, flexi-moyen, le Denis quand même. Est-ce que ça l'embête, tout ça, au final ?
Bah, chacun fait ce qu'il veut, moi, mais après, mais faut pas, comment je dirais, moi, faut pas inciter les gens, parce qu'il y a un végan ou un végétarien, à mettre tout le monde végétarien dans le même sac, quoi. Chacun fait ce qu'il veut, après, chacun est libre... Moi, ce que je conçois pas, c'est les parents qui imposent à leurs jeunes enfants d'être végétariens. Parce que pour la croissance et pour tout, le corps humain, il a besoin de protéines.
Question piège, c'est quoi votre plat vegan ou végétarien préféré, Denis ?
Ah bah moi, je mange pas vegan, moi, ni végétarien. Bah, je mange de la salade, je mange des tomates comme tout le monde, mais je mange pas que ça uniquement. Bon. Je serais trop malheureux.
On l'a bien compris, Denis n'est pas végan. Certaines ont supprimé la viande par choix politique, d'autres en mangent moins par souci économique, tout simplement, et d'autres ne peuvent pas s'en passer car ils seraient malheureux. Après tout, la faim, F-A-I-M, justifie les moyens.
Quelle chute, quoi.
Ah là, mais il y a eu beaucoup de choses, là. Le Luixit.
Bon. Demain, tous flexitariens ou pas ? On en parle cet après-midi avec un sociologue de l'alimentation, Philippe Cardon. On vient d'entendre Denis, le boucher d'un certain Philippe Lacarrière. Il dit qu'on consomme moins, ça il le constate chez ses clients, mais que les gens veulent du bon. Et ça c'est vrai, ça fait partie de cette mouvance flexitarienne. Il y a vraiment une recherche de... Quand on achète de la viande, je pense notamment la viande rouge, c'est plus rare qu'avant, donc on veut vraiment quelque chose de qualité.
Ça dépend de qui on parle, c'est toujours pareil. Ça dépend de la position qu'on occupe dans l'espace social, quel milieu social, quel est le porte-monnaie qu'on a. Donc là, il y a des arbitrages qui sont faits. Il y a beaucoup de travaux en économie qui le montrent sur les arbitrages au regard du prix de la viande. Donc oui, globalement, d'autant que la consommation de viande dans les pays occidentaux, en particulier en France, globalement, elle diminue. Ça, c'est un fait. Elle diminue plus ou moins... selon les milieux sociaux, je l'ai déjà dit. Et puis, cette recherche de la qualité, elle est quand même aussi... Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans une logique à trois bandes. C'est-à-dire qu'on a l'État qui vous transmet un certain nombre de recommandations en matière alimentaire et qui nous dit qu'il faut quand même manger de la viande de manière modérée. Et puis, vous avez le marché aussi. Et puis, le marché, il y a le lobby de la viande qui occupe une place importante. Mmh. Et puis, ce qu'on sait aujourd'hui, ben, c'est que cette question du flexitarisme, certains, en tout cas en sociologie, en économie, on considère que c'est devenu aussi un outil de marketing qui n'est pas négligeable parce que c'est aussi une façon pour l'industrie de la viande d'essayer de donner une nouvelle image.
Ça sera tout l'objet de notre dernière partie. Bah, voilà, est-ce que le flexitarisme est une arme pour les bouchers, pour le lobby de la viande ?
Vous parlez de l'État, des commerçants, mais les chercheurs, les scientifiques, les professionnels de la santé, c'est quoi leur avis sur le flexitarisme ?
Honnêtement, je n'ai rien lu sur ce que peuvent dire les professionnels sur le flexitarisme. Encore une fois, je trouve qu'il y a eu une des interventions là, dans les personnes que vous avez interrogées. C'était intéressant parce qu'elle a dit « Mais c'est quoi le flexitarisme ?» En réalité, si on demande à la plupart des gens...
j'ai essuyé beaucoup de gens qui ne savaient pas ce que c'était.
Et parce que la définition est large.
En fait, non seulement elle est large, mais beaucoup de gens ne connaissent pas le mot, en fait.
Les gens pensent qu'on mange
végétarisme, on sait ce que c'est. Carnivorisme, on sait ce que c'est. Flexitarisme, c'est ce que j'essaie de dire.
Même chez les professionnels, quoi.
Moi, j'entends très très peu parler de flexitarisme dans les terrains qu'on fait.
C'est pour ça que ça nous fait un bon mot. Décortiqué. Il y a plusieurs choses entendues dans le micro-trottoir. Alors, la cadre, qui avec toutes ses collègues, la bosse, etc., sont végétariennes. On a Denis qui est boucher, l'étudiante au milieu qui nous dit qu'elle a arrêté de manger de la viande, puis par manque de fer, elle a repris de la viande, mais qu'elle ne peut pas se la payer. C'est un échantillon qui semble représenter ce que vous pensez ?
Sur le cas de l'étudiante, en fait, c'est extrêmement intéressant parce qu'on sait que on ne devient pas végétarien ou flexitarien, entre guillemets, du jour au lendemain. En fait, c'est vraiment un parcours d'apprentissage, en réalité. Et on sait, par exemple, je vais prendre le cas du véganisme, vous avez beaucoup de gens qui entrent, comme on dit en sociologie, en véganisme, qui développent des habitudes alimentaires véganes et qui, à un moment donné, mais en fait, s'arrêtent pour des tas de raisons. En particulier, j'ai le végan, parce que c'est difficile de trouver des produits, d'être totalement en accord avec ses idéaux, parce que du point de vue des pratiques, c'est difficile. Et puis, on trouve la même chose aussi chez les végétariens. C'est-à-dire que ce sont des catégories qui nous aident à situer des pratiques alimentaires, mais qui restent floues et larges dans le temps, en fait. Et elles sont jamais totalement complètes ou totalement assumées, en réalité. Donc, c'est ça qu'il faut arriver à saisir aussi. Donc, je trouvais que l'exemple était intéressant. Est-ce que c'était le mien qui faisait bibibi ?
Je pense pas.
Représentatif, vous avez dit sur votre échantillon. Oui, quelque part, on peut dire ça, parce qu'on a la cadre typique, je vous en ai parlé tout à l'heure, et puis on a les commerçants artisans, c'est les catégories chez lesquelles on peut trouver le moins, notamment de personnes qui sont végétariennes, par exemple.
Quentin, vous avez fait vos débuts, sans le savoir, dans la sociologie, c'est magnifique. On continue de zoomer sur les flexitariens avec notre invité Philippe Cardon. On va notamment se demander si la mode de ce régime alimentaire qui prône moins de viande, mais mieux, n'est pas orchestrée en sous-main par le lobby de la viande lui-même, qui voit une manière de ne pas se mettre à dos les jeunes générations. Ce sera juste après le Zoom Zoom Test dédié aujourd'hui aux régimes les plus fous, du régime 100% protéiné de Ducamp au régime 100% vin blanc de la Marianoche. Vous verrez qu'en fait, aucun régime drastique n'est bon pour votre corps. On en parle juste après Olivia Dean, The Hardest Part, sur France Inter. Call me up to meet you, static on the phone. Normally I need you, this time I don't wanna go. Lately I've been growing into someone you don't know. You had the chance to love her, but apparently you don't. No, you don't. So even if I could, would it go back where we started?
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Alors qu'on zoome aujourd'hui sur le régime flexitarien et que le quiz va porter sur les différents types de régimes plus ou moins miracles, j'aimerais porter à l'attention des médecins qui nous écoutent une anomalie assez stupéfiante. Comment, j'insiste là-dessus, comment un homme qui était, on va dire, dans une situation de léger embonpoint, a-t-il pu perdre du poids tout en mangeant chaque jour de plus en plus de bonbons Haribo? L'énigme, lui, qui va à rebours de tout ce qu'on croyait savoir en matière de nutrition, n'est pas prête d'être résolue. En attendant, jouons au Zoom Zoom Test. Un quiz à la découverte aujourd'hui des régimes les plus fous de l'histoire contemporaine, mais aussi lointaine, car vous allez voir qu'il n'y a pas que les influenceurs TikTok qui ont des idées farfelues. Top ! Que nous commençons notre périple il y a longtemps, très longtemps, une époque qu'ici, seul Cyril de la carrière a connue, la Grèce antique. Car figurez-vous que le premier régime remonte à Hippocrate lui-même, le père de la médecine, qui d'après vous préconisait quoi ? De manger trois fois par jour, habillé ? De manger une fois par jour, nu ? Ou de manger deux fois par jour, une fois nu, une fois habillé ?
Mais j'étais plus rapide.
Quentin, vous avez été très rapide. Ouais. Vous connaissiez ce...
Je fais ça toujours.
Oui, le
il
premier...
a jamais mangé nu.
Mon Dieu, le premier farfelu de l'histoire des régimes, c'est Hippocrate lui-même qui recommandait donc de ne manger qu'une fois par jour, mais nu.
Plus précisément, au-delà des repas, il recommandait de vivre nu tout le temps, en fait. Une idée qui serait difficilement applicable aujourd'hui, mais pourtant pas si saugrenue que celle que Malcolm Fleming a eue en 1760. D'après vous, Manon, Quentin, quelle fut l'intuition géniale du docteur Fleming ? Que la javel dissolvait les graisses et donc qu'il fallait boire de la javel ? Que le savon dissolvait les graisses et que donc il fallait manger du savon ? Ou que l'acide sulfurique dissolvait les graisses et que donc... Et il n'a pas eu le temps de finir sa phrase.
Ah.
Mais non, il n'y avait pas de javel à l'époque, je pense. B. La réponse B.
Oh, j'aime ce raisonnement par escalier de Quentin Lui. Bonne réponse, ah, oui. Eh oui, vous aimez le pousse-mousse ? Eh ben, bouffez-le ! Bon, c'est une méthode qui n'est pas restée dans les annales, je vous le concède, et qui n'a pas franchi l'Écosse. Pas plus que celle au 19e du docteur Jean-François Dansel, qui lui est arrivé à une conclusion qui réjouirait William, le patron du Blériot. Ce qui rend obèse, en fait, c'est l'eau. Ce qui rend obèse, en fait, c'est les courgettes. Ou ce qui rend obèse, c'est de ne pas boire de vin.
A.
C.
Et B.
C'est une bonne réponse de Manon Marie.
Ah, super.
Il faillit penser, trop souvent, on a tendance à éliminer l'eau parmi les facteurs de l'obésité. Et pourtant, c'est irréfutable, l'eau fait tout gonfler. Comme Véro, arrêtons d'en boire.
Véro.
Ce récapitulatif historique avait un but, les amis. Vous montrez que les influenceurs et stars actuels, adeptes et souvent ambassadeurs de régimes loufoques et parfois dangereux, ne sont pas si cons qu'on le dit parfois. Mais bon, ils ont quand même un sacré niveau. Top ! Pour conserver sa ligne sculpturale, l'actrice Megan Fox a certes une salle de sport à domicile où elle s'entraîne 5 fois par semaine avec un coach personnel. Néanmoins, si vous lui posez la question, elle vous dira que son secret minceur, c'est de prendre des shots de vinaigre balsamique 3 fois par jour, de prendre des shots d'urine 3 fois par jour ou de prendre des shots de vodka comme la Marianoche à la grande époque 3 fois par jour.
B. C'est A, B. C'est le vinaigre, je suis sûr. Je l'ai vu sur TikTok.
C'est l'urine. Non,
pour vous, c'est l'urine. Quand oui. Si vous pouvez me le dire encore plus nettement, ouais. Qu'on puisse isoler votre phrase, pour vous, c'est...
C'est la réponse B.
Votre mesquinerie n'est pas payée, justement. C'est la réponse A.
Ah, voilà.
Exactement, parce que le vinaigre balsamique, c'est comme l'acide sulfurique en moins violent, ça brûle les graisses. Attention, top.
Vous le faites, Manon, non?
C'est non, mais moi je comme ça naturellement.
Oui, c'est vrai, vous éliminez bien. Vous. Vous connaissez tous Madonna, mais connaissez-vous le régime incroyable auquel elle se livrerait, soi-disant avant chaque tournée ? La pill diet, elle ne mange que des pilules de compléments alimentaires. La sea diet, elle ne mange que des produits de la mer. Ou la air diet, elle ne mange rien, elle se contente de humer les plats qu'on lui présente sans y toucher.
Bébé, ouais,
bébé, c'est sûr, c'est
les poissons.
Alors je vais vous dire un truc, c'est pas si sûr que ça.
Ah.
Ben je vais vous dire un truc.
C'est les trois.
Oh oui, Manon. Oh, quelle fine connaisseuse de Madonna.
Elle jeune,
oh
en fait.
Oui. Voilà un régime qui entraînerait à brève échéance le placement de Cyril Lacarrière en soins intensifs. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, il était indigné du gras, il a essayé la air diet, il a juste reniflé la côte de porc et comme il savait qu'il pouvait pas la bouffer, il est tombé dans le coma. Enfin, attention, top. On le répète souvent, le jeûne intermittent, ou pas d'ailleurs, c'est pas une bonne idée. Mais parmi tous les types de jeûnes qui existent, celui qui décroche le pompon du nimpe, c'est certainement celui qu'on appelle le régime loup-garou. D'après vous, Manon, Quentin, pourquoi l'appelle-t-on ainsi ? Parce qu'il consiste à jeûner et à ne pas s'y piler.
À ne pas quoi s'épiler ?
Il n'arrive même pas à le dire. Calme-moi la toile.
Il est mort de rire.
Ça blague.
À jeûner, mais seulement les jours de pleine lune ? Ou à jeûner, mais seulement quand le soleil est visible ?
B, la pleine lune.
Ah, ça peut que être ça.
Bah oui, bah, franchement, si c'est l'épilation.
Non, je vais mettre C, moi, pour répondre à autre chose, mais sinon c'est B.
C'est une bonne réponse de Manon. Ah. Oui, le régime loup-garou, fallait vraiment y penser. Chaque mois, les jours de pleine lune, vous vous abstenez de manger quoi que ce soit et vous buvez un maximum d'eau pour une raison assez évidente. C'est vrai, la lune agissant sur les marées des océans, non, elle agit aussi forcément sur l'eau qui est en vous, créant à l'intérieur de vous une marée détoxifiante. Non. C'est pas merveilleux ça ?
Si, c'est vrai.
Victoire.
Ça a forcément un impact.
Victoire de Manon Mariani.
Bon, on ne sait pas trop comment ça a été compté encore.
Je pense qu'on était à égalité, mais la régie est pour moi. Écoute.
Mais j'ai perdu un peu de poids, moi, si vous.
Oui, mais ça, on l'a compris. Ouais. Je crois que là, tous les auditeurs ont compris que vous avez perdu beaucoup
de
poids.
Oui, j'ai perdu 4 kilos.
Mais... Et c'est pas rien 4 kilos quand on mesure. Enfin bref. Philippe Cardon, j'appelle que vous êtes sociologue de l'alimentation et maître de conférence à l'Université de Lille. Notre mot du jour, le terme flexitarisme, il est partout. Il est même repris par une partie de l'industrie de la viande, notamment par des organisations telles que Interbev, qui est à l'origine de la pub et du site Naturellement Flexitarien. Est-ce qu'à vos yeux, le flexitarisme, c'est pas en train de devenir un concept marketing qui peut sauver le secteur de la viande, en fait ?
On peut déjà dire que c'est un objet éminemment politique, puisqu'en fait, il est à l'articulation de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois l'État, le marché et puis les consommateurs. Et donc, de fait, il y a ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que l'industrie de la viande, elle essaie de trouver une nouvelle place dans les enjeux actuels en diététique et en nutrition relatif à la place qu'occupe la consommation de la viande et le fait qu'elle est portée par une image parfois un petit peu négative, qui est portée notamment par certains mouvements comme les véganes, le végétarisme. Et donc c'est vu que la notion même de flexitarisme reste très floue, c'est ce qu'on a quand même vu aujourd'hui, eh bien en fait l'idée c'est de dire que l'industrie de la viande y voit une forme d'opportunité pour essayer d'y trouver une autre façon de valoriser en fait la consommation de la viande.
Moi je trouve que c'est plutôt important comme bascule, parce que s'ils en sont à se dire qu'il faut communiquer sur le flexitarisme, c'est qu'ils ont compris que l'opinion publique de manière générale avait basculé vers l'idée que la viande, il ne fallait pas en manger beaucoup.
Elle a basculé.
C'est déjà, voilà, on y est.
Ouais. D'où l'idée de manger de la viande de qualité, etc. etc. Donc c'est une nouvelle catégorie qui pourrait constituer une nouvelle niche.
Mais alors, d'accord. En termes d'impact environnemental, flexitarien, végétarien ou végétalien, est-ce qu'il y a vraiment des différences? Comment on peut mesurer cet impact?
On peut le mesurer par la diminution de la production de viande et de tout ce qui est utilisé pour produire de la viande, en fait. Donc c'est à partir de là qu'on arrive à le mesurer. Ouais.
Est-ce qu'on est tous égaux face au flexitarisme? Je pense aux femmes, par exemple, qui ont plus tendance à avoir des carences en fer quand elles ne mangent pas de viande et quand elles ont leurs règles. Voilà.
Bah voilà, il faut manger un petit peu de viande.
Non, mais du coup, il y a quand même une différence entre hommes et femmes là-dessus.
Il y a une différence homme-femme, et puis il y aura aussi une différence en fonction de l'âge que j'ai évoqué tout à l'heure. Et puis si on veut aller encore plus loin, en fonction du type de métier, le rapport physique qu'on peut avoir, ça va jouer aussi, la consommation de viande. On le sait, la viande, elle peut être tout à fait nécessaire quand on fait des efforts physiques. Il y a du savoir scientifique sur cette idée. Donc oui, il y a forcément des inégalités. Ouais.
Est-ce qu'on va aller vers une personnalisation? Moi, je vous écoute depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que comme ça dépend, comme un bon régime alimentaire, il dépend de notre âge, du métier qu'on a exercé ou qu'on exerce. Il y a tellement de détails. Est-ce que dans le futur, ce mot qu'on analyse aujourd'hui, flexitarisme, il va se dissoudre dans plein d'autres mots parce que chacun aura un régime adapté à lui, en fait. Une personnalisation.
Disons qu'il y a tout un ensemble de la science qui commence à développer une conception plus individualisée du régime alimentaire. C'est-à-dire qu'il essaye de trouver une façon de consommer qui soit en lien avec sa personnalité à la fois physiologique, individuelle, psychique. Et donc il y a des choses qui sont mises en place à ce niveau-là, par le corps médical notamment.
C'est quoi l'avenir de la viande dans nos assiettes? Est-ce que vous pensez qu'on va encore manger de la viande dans 30 ans ou 50 ans? Ou est-ce qu'on va complètement la supprimer?
Ne tuez pas Denis Chesnay comme ça.
Et Cyril?
Non. Un sociologue, il n'a pas de boule de cristal, donc c'est difficile à dire. En même temps, ça paraît difficile de ne plus consommer de viande dans le futur. Peut-être qu'il y aura une consommation qui va continuer à diminuer.
Mais la transition sera longue.
Et elle pose en même temps, ça pose énormément de questions sur le rapport que nous pouvons avoir nous-mêmes avec les animaux. Donc c'est un sujet complexe. Donc je ne pense pas, a priori, que la consommation de viande va disparaître totalement. Elle va continuer à diminuer, très certainement, mais jusqu'où je ne sais pas.
Mais moi, j'aimerais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure et qui est là assez sociologique pour le coup, c'est le fait que ce soit dans les milieux modestes où on consomme encore beaucoup de viande. Ça, c'est une raison qui est que vous expliquez par quoi. C'est parce que longtemps, la viande, justement, et la viande rouge, c'était le symbole d'une sorte de réussite sociale et que donc, c'est ancré dans ces milieux-là et on continue aujourd'hui, alors que j'imagine que Bernard Arnault, il a bien baissé sa consommation de viande.
Oui, et il ne mange pas de toute façon la même viande.
Ah oui, ça, c'est sûr.
Ensuite, parce qu'on pourrait rentrer aussi dans le détail sur la hiérarchie en fonction des types de viande. Déjà, blanche et rouge, c'est pas la même chose. Au sein même de la viande rouge, il y a toute une gamme de hiérarchies. Et puis, l'accès à la viande n'est pas la même en fonction de l'espace dans lequel on est, le territoire dans lequel on est, entre villes, tel quartier dans la ville, et puis les supermarchés qui vous avez de la proposition. On vous propose de la viande à bas prix dans les supermarchés, notamment en milieu rural.
Et pardon, dernier mot, c'est quoi cette hiérarchie de la viande dont vous parlez? Elle est clairement établie pour...
Non, là, je renvoie à des... Là, je vais parler de stéréotypes, le fameux répertoire alimentaire.
Oui, oui.
Tout ça, c'est lié à des représentations sociales qu'on peut avoir par rapport à la viande. Par exemple, si on prend le sanglier qui renvoie à une conception de la viande rouge, mais quasiment la viande noire, parce qu'elle renvoie à la question de la nature. Il y a des très beaux travaux qui ont été faits en anthropologie. Je pense à un anthropologue qui s'appelle Bertrand Hell, qui avait bien montré toute cette dynamique symbolique derrière, par exemple, le sanglier. Donc, et puis, c'est pas du tout la même chose que de consommer, par exemple, du porc. Enfin, et donc, chaque viande renvoie à des stéréotypes qui vont eux-mêmes s'intégrer dans une forme de hiérarchie et qui vont ensuite plus ou moins être consommé en fonction du milieu social.
La hiérarchie des viandes, on en apprend vraiment tous les jours dans Zoom Zoom Zen. Vous écoutez France Inter, il est 16h47. Lui aussi, il s'est promis de manger moins de viande en 2024 pour se focaliser sur les viandes qui lui procurent vraiment du plaisir, comme le bœuf de Kobe. Yann Marguet va nous rejoindre. Mais d'abord, Manon, vous me croirez ou pas, mais ça fait plusieurs heures maintenant que je ne suis pas allé sur TikTok.
Étonnant.
Forcément, des choses inouïes ont dû se dérouler en mon absence. Je crois même qu'une nouvelle expression a eu le temps d'émerger.
Qu'est-ce qu'un homme capable ? Depuis quelque temps, cette expression est employée un peu partout sur les réseaux et en grande partie par la Gen Z.
S'il t'appelle ma femme quand il parle de toi, homme capable. Il veut une femme indépendante et la soutient dans ses rêves. Homme capable de ouf. Et si il sait cuisiner, là vraiment c'est un homme capable.
Là, vous entendez la TikTokeuse YoYo BDT qui fait la liste de ce qu'elle estime définir un homme capable. Sur X, on voit aussi des messages reprendre cette expression. En gros, vous l'avez un peu compris, un homme capable qualifierait des mecs qui montrent leurs sentiments à leur partenaire avec des mots doux ou des petites attentions. Par exemple, offrir un bouquet de fleurs, dire « je t'aime » le matin ou encore complimenter son ou sa partenaire. Le but de tout ça, c'est de le montrer sur les réseaux pour vanter les mérites de son mec et prouver qu'elle sorte avec un as de la galanterie qui comprend les femmes.
Bah écoutez, moi, ce que je comprends, ce sont quand même des choses très ordinaires, surtout pour un lover comme moi.
Un lover comme vous,
bien
sûr. Et c'est ça le problème, car autant ça peut être mignon de mettre en avant des preuves d'amour de son copain ou de sa copine, autant cette expression d'homme capable est beaucoup plus perfide que ça. Car elle glorifie les hommes pour pas grand-chose. Le compte féministe Shtam sur Instagram résume cette expression en se demandant pourquoi on félicite les hommes qui aiment leurs copines. Et c'est vrai que ça paraît quand même fou dit comme ça, parce que sous couvert de la fierté d'avoir un mec qui fait telle ou telle action pour montrer son amour, l'homme capable est tout simplement un mec dans une relation amoureuse lambda. Je pense que dire je t'aime à la personne qu'on aime n'est pas non plus quelque chose qui mérite d'être souligné dans une vidéo TikTok. Pareil quand il s'agit d'avoir un mec qui répond à nos messages sans nous faire attendre. En fait, l'homme capable est tout simplement un homme qui respecte son ou sa partenaire. Et se dire qu'en 2024 on est obligé de trouver un terme pour parler des hommes qui sont normaux et bienveillants avec leur moitié, c'est flippant. D'autant plus que les personnes qui l'emploient sont en grande majorité des femmes.
Mais pour vous, elles ne se rendent pas compte du problème ?
Non, je pense que pour beaucoup d'entre elles, c'est une bonne chose de valoriser ces hommes capables, car ils sont le contraire des hommes toxiques dont on entend énormément parler sur les réseaux. C'est vrai que depuis MeToo, les réseaux sont devenus un vrai lieu de revendication pour les femmes qui veulent dénoncer les comportements malsains des hommes. C'est pour ça que d'un côté, l'envie d'employer cette expression pour certaines peut être compréhensible. En un sens, elles veulent aussi montrer que les mecs ne sont pas tous des pervers narcissiques qui invisibilisent leurs partenaires. C'est vrai que c'est aussi bien de montrer que les relations peuvent être saines. Sauf que cette expression est tellement bancale qu'elle est aussi reprise à des fins beaucoup plus négatives par des hommes. Et pas n'importe lesquels, les masculinistes évidemment. Exemple de cette mentalité avec un message trouvé sur X. L'expression « homme capable », c'est juste du marketing des michetos qui n'assument pas leur statut de femme incapable. Donc pour eux, les femmes qui ont besoin d'hommes capables sont juste à la recherche de leur argent et de leurs cadeaux pour pouvoir après les afficher sur leur réseau et avoir des likes. Et en fait, dans leur état d'esprit, les hommes capables sont en fait des canards ou des hommes faibles qui manquent cruellement de virilité.
Donc cette tendance de l'homme capable, vous en pensez quoi ?
Eh bien en fait, qu'il n'existe tout simplement pas. C'est un fantasme, c'est une projection que l'on fait d'une relation idéalisée, encore une fois, pour les réseaux sociaux. Cette expression fait juste partie d'une tendance plus globale qui consiste à parler de sa vie privée et de la romantiser au maximum. J'avais fait une veille sanitaire sur les couples qui se mettent trop en scène sur TikTok. Et bien là, c'est exactement pareil. L'expression « homme capable » est juste là pour romantiser les preuves d'amour que l'on reçoit alors qu'elles devraient rester dans le cadre intime. Gardez vos fleurs et vos « je t'aime » pour vous.
Merci Manon, clairement une chute en forme de message à Cyril Lacarrière, notre rédac chef, qui a cru hier rattraper 2 ans de bougonnerie en offrant 3 brins de muguet aux filles de l'équipe. Bien tenté Cyril. Zoom Zoom Zen revient avec Yann Marguet juste après Eddy de Préto, Urgence 911 sur Inter.
Toi tu connais les sourires qui me font danser tous les soirs. Comme j'aime les jours qui tirent vers de folles nuits qui se couchent tard. Toi tu danses comme tu respires. Tu ne vas jamais me laisser m'asseoir. Tu sais travestir le pire en un simple bonheur sans histoire. Tu as l'air de savoir-faire. Tout semble si facile pour toi. Mon cœur sert, oui, mais j'en foire. Mais toi, tu danses toujours au pas. Oh, toi, tu gardes, oui, tu gardes le sourire même sous le brouillard. Mais ce soir, je ne te vois plus. Je danse seul et la piste est noire. Sur quel pied tu danses? Et s'il te plaît, sur quel pied tu flanches? Dois-je appeler les urgences? Posant ton cœur, danser dans l'ambulance. Sur quel pied tu danses? Et s'il te plaît, sur quel pied tu flanches? Es-tu sous surveillance quand ton cœur n'est pas sur la piste de danse? J'ai fait le 911, demandé à parler à ta bonne étoile. On m'indique qu'elle danse son dernier bal. Ce soir on voit l'adresse, c'est moi qui te soigne. Il est minuit, minuit, pas midi, midi. Oh baby, baby, je préfère gérer la nuit. Sur moi qu'on dansera même si tu die, die, die. Sur quel pied tu danses? Dis s'il te plaît, sur quel pied tu flanches? Dois-je appeler les urgences pour rejoindre ton cœur, danser dans l'ambulance? Sur quel pied tu danses? Dis s'il te plaît, sur quel pied tu flanches? Es-tu sous surveillance quand ton cœur n'est pas sur la piste de danse? Je t'emmènerai danser quelque part, on hurlera à mort sur les boulevards. Suffira d'allumer nos gyrophares. Avant c'était toi qui dansais l'ennui. Ce soir je peux tout porter, toi et tes poésies. J'aurai celui qui guide, cette nuit c'est moi qui drive. Jusqu'au petit matin, puis on se dira bye, bye, bye. Juste une dernière danse. Juste une dernière chance. Sur quel pied tu danses? Dis s'il te plaît, sur quel pied tu flanches? Dois-je appeler les urgences pour rejoindre ton cœur, danser dans l'ambulance? Sur quel pied tu danses, s'il te plaît, sur quel pied tu flanches? Es-tu sous surveillance quand ton cœur n'est pas sur la piste de danse?
Zoom Zoom Zen sur France Inter.
Il est flexible, en tout cas en termes de salaire, sinon il ne serait pas chroniqueur sur Inter. Mais est-il flexitarien? Je ne veux pas trop m'avancer, mais j'en doute un peu. On accueille Yann Marguet dans Zoom Zoom Zen.
Et oui Mathieu, je m'étais toujours demandé pourquoi on ajoutait l'adjectif engagé après le mot militantisme. C'est vrai, on parle souvent de militantisme engagé, alors qu'il y a un côté un peu pléonastique dans cette histoire. C'est comme quand on dit monter en haut ou ce connard de Quentin Lui.
Ah ouais,
il y a une info
qui vient de nulle part.
Il y a une info qui est superflue. En fait, j'ai fini par comprendre. Grâce aux flexitariens, c'est parce qu'il y a aussi du militantisme pas engagé. C'est-à-dire que c'est des gens qui font exactement comme toi, sauf que c'est des militants. Voilà. Ah non, mais ce que l'homme est capable d'inventer pour pouvoir se piffrer lui-même. Dis donc, tu serais pas un peu pédo sur les bords, toi? Bah non, je suis réalisateur. Ah bah, PK. Les flexitariens, donc, alors est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un mot, déjà Ils mangent de tout, mais moins de viande. Bon bah voilà, tu le dis une fois, c'est bon, quoi. Pas besoin d'aller faire chier l'Académie française pour te faire rentrer dans le Larousse des trous. Pardon, mais c'est quand même un peu lambda pour mériter une catégorie à soi. C'est comme si je te dis, ah bah je vais au travail à pied, que tu me fais, ah bah t'es worko-pédestre. Non, je vais au travail à pied, c'est bon quoi, pas besoin d'en faire un champ lexical. Regardez Jésus, une fois il a rompu du pain, ça fait un bouquin quoi. Surtout que, et je suis pas peut-être tombé sur les bonnes personnes, j'en conviens, mais les flexitariens que je connais, ils sont quand même vachement plus sur le côté flexi que sur le côté tarien, c'est ce que je veux dire. En gros, ça se traduit le plus souvent par moi au resto qui dit, une entrecôte saignante s'il vous plaît, et l'autre qui est là. Ouais, allez, moi aussi, pour cette fois. Hein. Bah, non, c'est quand même toutes les fois, mon gros. Hein. Là, je sais pas ce que la planète gagne grâce à toi, mais une chose est sûre, c'est pas du temps. Non, mais moi, je serais végétarien, ça me rendrait cinglé, ce genre de mec, quoi. Et vas-y, qui revendique, et vas-y, que quand même, le foie gras Noël, ça se refuse pas. Et vas-y, que quand il te croise, il t'appelle frère. Ah, mais frère, toi et moi, on est les mêmes. Hein. J'ai vraiment l'image de Macron avec Mbappé après la finale au Qatar, avec le végétarien qui est assis, l'air interdit sur un parterre de salade, et l'autre con qui arrive là. Mais dégage! T'as rien fait, putain! Surtout qu'avec l'inflation et le prix de la bidoche, je soupçonne quand même une grande partie des 24% de Français qui se disent flexitariens d'être plus endèche à rien qu'autre chose, hein, et de faire passer ça pour de l'héroïsme. Mais bon, il y en a, semble-t-il, qui font vraiment ça pour des raisons idéologiques et pas seulement pour atteindre une forme d'harmonie entre eux et eux-mêmes, n'est-ce pas ? Hein, grosse pensée d'ailleurs pour signer la carrière quand on sait qu'il y a des gens qui font l'effort d'aller chercher des vitamines B12 dans les lentilles plutôt que dans la viande. Hein. Ah bah pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas notre rédacteur en chef, bon bah, vous voyez le programme Manger, bouger. Et bah, Cyril, c'est bouffer, dormir. 5 veaux et agneaux par jour. Ah bah il comprend pas, le petit père. Hein, tu comprends pas. Ah, ça te fait rire. Hein. Ah bah, ouais. D'ailleurs, grande question, pourquoi ça nous énerve autant, nous les viandards, que des gens aient décidé de pas ou de moins bouffer de la viande? Ah, c'est fou. Ils réduisent notre empreinte carbone générale en se privant de la meilleure chose qu'on puisse ingurgiter et on les déteste. Ils contribuent à faire que nous, par leur action, on finisse naturellement par diminuer aussi notre consommation, sauf Cyril évidemment qui en bouffe plus par réaction, et on leur gueule dessus. Mais c'est nous qui devrions descendre sur la pelouse pour leur faire des câlins. Ils ont raison, hein, tout au plus. Les seuls qui auraient vraiment le droit de se foutre un peu de leur gueule, c'est nos grands-parents à la campagne, parce que manger bio, équilibré et de la viande que quand elle est produite par le boucher d'à côté, pour eux, c'est pas la révolution flexitarienne, hein, c'est la vie. C'est toujours marrant de constater que les concepts sanitaires et alimentaires les plus révolutionnaires du moment consistent à peu près tous à simplement vivre comme on a vécu les 300 000 premières années de la race humaine, sans produire comme des porcs et consommer comme des moutons. Allez, viens Cyril, on va manger.
Oui. Oh oui, c'est comme ça que ça devait se finir. Merci Yann Marguer, on vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen. Merci Philippe Cardon, grâce à vous désormais on sait ce que ça signifie vraiment être flexitarien. Merci, je rappelle que vous êtes sociologue de l'alimentation et maître de conférences à l'Université de Lille, membre du collectif Solal de recherche en sociologie de la consommation alimentaire. Merci à tous les amis, Manon, Quentin, Cyril. Merci aussi à Amel Caldi, Fanny Lhonneur-Crouzet et Sybille Bulou. À la technique, je salue Alexandre Chenet. Et à la réalisation, il a déjà enfilé ses birques, car oui, l'heure des vacances a sonné. Ghislain Fontanard en avait besoin, puisqu'il n'avait pas été en vacances depuis maintenant le 21 avril. Soit il y a maintenant 12 jours. Enfin, oh, attendez, non, il reste l'émission de demain, bien sûr, j'allais l'oublier. Alors on va dire quasiment en vacances. Et demain, justement, on zoomera sur un mot vintage, les blogs, avec le roi des blogs, créateur des fameux Skyblog, Pierre Bélanger, le patron et fondateur de Skyrock. Alors à demain 16h, et jusqu'ici tout va bien. Marie Missé, Marine Baousson, bonsoir.
Bonsoir Mathieu Noël, bonsoir l'équipe. Aujourd'hui on est trop contente, on reçoit l'artiste Abraham Poincheval.
Pour une de ses œuvres, il a marché dans les nuages.
Et vous Mathieu Noël, est-ce que parfois vous êtes aussi un petit peu hors sol?
Je suis souvent dans la lune, oui, ça m'arrive, mais visiblement je ne suis pas le seul.
Oh!
Mais oui, j'en connais d'autres!
C'est visé,
c'est un message pour quelqu'un.
C'est un message pour
quelqu'un. Autour de votre table ou autour de notre table?
Autour de votre table, tout de suite.